De retour à l'émission Au gré du temps, nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui Robert Lebel. L'Église d'aujourd'hui, nous avons déjà mentionné qu'elle était en transformation, oui, pour le moins. Cette pratique religieuse qui s'affaiblit, pour ne pas dire s'affaiblit un peu, est-ce que ça vous atteint?
Bien, écoutez, oui, il y a une part de tristesse là-dedans. Lorsqu'on arrive dans une église pour présider une célébration et qu'il y a peu de personnes et qui sont souvent assises très loin dans l'église, alors ça fait un moment de tristesse. Par ailleurs, ce qu'il faut réaliser, il me semble en tout cas, c'est que il y a une autre façon de vivre la prière qui se révèle, qui se dessine à l'intérieur des communautés souvent plus petites. Il y a des moments de grande fête. Hein, il en faut des moments de grande fête. Mais il y a des moments aussi de fêtes plus intimes. Mais c'est ce qui arrive dans la plupart de nos familles. Hein. C'est des fêtes plus intimes. Et dans ce contexte-là, moi, ma vision de l'Église, elle est loin d'être désespérée, ni désespérante, au contraire. Parce que ici et là, on voit naître des gens qui prient avec foi, à leur rythme, eux autres, qui ont redécouvert une façon de vivre l'engagement chrétien aussi. Alors, tout ça, c'est marqué par l'amour profondément, là. Et je vois se construire, à mon sens, une église toute neuve.
Est-ce qu'un Robert Lebel n'est pas justement un de ces témoins qui peut permettre à la génération montante de reprendre contact avec cette église en transformation, à travers la musique, à travers les paroles qui sont des paroles très modernes, mm-hmm, et très senties du monde dans lequel nous vivons tous?
Ben, j'ose croire que ce que j'accomplis est crédible, en fait, hein, qui a un sens pour ces communautés-là. Et puis, je pense que le fait qu'elles reprennent ces chansons-là ou ces chants-là, ça part de soi. Mais je suis pas seul à écrire des chants aujourd'hui. Puis il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les couleurs.
Mais vous êtes pas mal plus présent que bien d'autres.
C'est vrai, je crois que ça, c'est un cadeau qui m'est fait de la vie et de la communauté de l'Église aussi, à travers ses croyants. Et comme je vous dis, pour moi, l'Église, elle est en transformation, vous l'avez dit vous-même, et ça me plaît, ce visage d'Église-là, qui n'est pas toute fabriquée d'avance, qui n'est pas glorieuse, qui n'est pas victorieuse tout le temps, qui est humble, qui est petite, qui est pécheresse, et qui doit le reconnaître. Et moi, le premier, je ne dois pas me battre les flancs en disant que je suis meilleur qu'un autre. Et c'est peut-être partie de mes disons de mon héritage personnel d'avoir à reconnaître cette pauvreté-là, non seulement dans mes moyens mais dans ma personnalité aussi. J'ai pas toutes les énergies qu'il faut, j'ai pas tous les talents au monde, je suis pas parfait sur toute la ligne, c'est pas vrai, mais je sers de mon mieux et j'y mets tout mon cœur.
Alors on va mettre tout notre cœur aussi à pénétrer dans ce moment d'intériorité, avec un très beau chant qui est souvent présenté comme étant l'Ave Maria de Caccini. Caccini a été quelqu'un qui a été très important au 16e siècle. Il était, je crois, au service des Médicis en 1565. Mais malgré tout, ce que j'allais vous dire, c'est que l'Ave Maria de Caccini n'est en fait qu'un pastiche composé en 1970 par un dénommé Vladimir Vavilov, qui est fort éloigné du style musical de Caccini, mais qui voulait laisser probablement à son ancêtre une œuvre célèbre. Alors, on va l'écouter, interprété par un Slave, Vyacheslav Kagan Palii. Je ne sais pas si ma prononciation est bonne. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui est né à Gomel en Biélorussie. C'est un contre-ténor ou autre contre, dont la voix rappelle celle des castrats, qui au 16e et 15e siècle aussi devaient être omniprésents dans le monde ecclésiastique. Ça, c'est le genre de musique qu'on aime bien entendre avec peut-être deux ou trois chanteurs, oui. N'est-ce pas? Dites-moi, Robert Lebel, nous parlions de cette église en transformation. Est-ce que on parlait aussi du fait que cette pratique religieuse est moins présente, mais la quête de sens l'est davantage peut-être aujourd'hui? Est-ce que cela ne nous permet pas de pouvoir imaginer une église différente au cours des prochaines années?
Je crois que oui, parce qu'en réalité, dans notre vie de tous les jours, on fréquente des personnes de différents âges, de différentes cultures, et de plus en plus, de cultures variées. Et dans ces personnes-là, qui n'ont pas le même parcours, on découvre des choses communes. Et de ces choses communes-là, il y a possibilité, comme des pierres vivantes, de construire une société encore plus belle et contemporaine même, mais sur une forme de solidité qui est celle du cœur et qui est du amour. Et si on se retire de cette pierre-là, je pense que là, on peut faire des bonnes débarques. Hein? Et je crois que les gens n'arrivent pas toujours à nommer ça en eux. J'ai des collègues musiciens, quand je travaille en studio pour un album, c'est pas tous des croyants, on est des pratiquants, ce sont des gens qui ont du cœur, qui ont du talent, et qui mettent leur cœur dans leur art. Et c'est déjà rendre gloire à Dieu, même s'ils ne le reconnaissent pas. Et ils accomplissent quelque chose de très beau, et à leur insu, ils servent la beauté de Dieu.
Vous qui travaillez beaucoup auprès des jeunes, quels sont les signes que vous percevez de ce renouveau? Vous venez de parler de musiciens qui donnent du cœur à l'ouvrage. Il y a sûrement aussi d'autres manières de percevoir des signes de changement.
Bien, j'ai le bonheur de travailler avec les groupes Chanter la vie qui sont nés du village des Sources à Rimouski. Donc, depuis 10-12 ans déjà, chaque année, j'ai la chance de travailler avec ces groupes-là, d'écrire des chansons pour eux autres. Et imaginez, la première année, on était peut-être une centaine sur scène, mais il y a 2 ans, au Colisée de Québec, ils étaient près de 800, ces jeunes-là. Alors, pour moi, c'est des jeunes pousses, là. C'est pas nécessairement des gens qui vont fréquenter l'Eucharistie, mais qui ont à cœur de chanter leur bonheur et d'entraîner les autres. Ils sont comme témoins entre eux autres d'un bonheur possible, hein, et qui attire le regard vers la paix, vers la bonté, vers la justice, la vérité, la liberté de parole, un leadership sain. Alors ça, c'est des gens qui sont extraordinaires et ils sont notre église de demain à leur façon, mais ils sont une communauté de croyants, croyant en quelque chose.
Une présence d'amour.
Ah oui, absolument.
John Littleton chanterait « Dieu est amour ».
Oui.
Cette chanson de John Littleton, toujours aussi jolie, toujours aussi actuelle également. Parlez-moi, Robert Lebel, de Versant la Noël. Ça, c'est un beau projet.
Bien, oui, enfin, dans mon cœur, et je crois que plusieurs aussi l'ont partagé. Ça remonte à 1996, on célébrait le centenaire de fondation de la paroisse de Pontbriand, Saint-Antoine de Pontbriand. Et à cette époque-là, on voyait venir en même temps l'an 2000. Et on se disait, on devrait à la fois profiter des fêtes de 96 et de l'an 2000 pour faire un projet neuf qui serait pour rendre hommage pour la 2000e fête de Noël, si on peut dire. Et de le faire chrétiennement, parce qu'on savait qu'ici et là, à travers le monde, s'organisaient des super parties de toutes sortes, avec des budgets extraordinaires, de feux
d'artifice. Malgré le bug de l'an 2000.
Oui, oui. L'énormité et de la peur, mais aussi de ces budgets de fêtes qui, finalement, n'étaient pas axés sur la foi, pas du tout, ni l'anniversaire de naissance de Jésus-Christ. C'était l'an 2000, point à la ligne. Et nous, on s'est dit, comme chrétiens, si on se met ensemble pour mettre sur pied un projet qui souligne la Noël, mais le faire chrétiennement, qui soit un signe aussi que la foi est toujours vivante et qu'elle a des racines dans notre région. Par exemple, dans la région de l'Amiante où j'habite, bon, il y a des communautés protestantes de plusieurs variétés, et bien sûr la communauté catholique. Et au début du siècle dernier, il y avait des familles ukrainiennes qui sont venues donc de tradition byzantine, ukrainienne orthodoxe, et qui ont créé une communauté, une société, une collectivité quand même constructive qui s'aimait, qui a réussi à accomplir quelque chose, célébrer ça, la beauté de l'amour qui transcende nos différences, construire sur une base commune une société avec ses couleurs. Donc, l'édifice qui est là actuellement en parle, mais aussi ce qu'on tâche d'y vivre, d'être accueillant toute personne, avec son trésor, avec sa souffrance. Et il y a deux pavillons dans ce site-là, plus des ermitages, mais un pavillon d'accueil, il y a des chambres, une salle d'animation, un atelier de travail. Puis l'autre, c'est un pavillon interreligieux et puis à la fois œcuménique. Donc, la crypte de cet édifice-là est dédiée à Abraham. Et on l'a baptisé comme ça parce qu'on s'est dit, la foi d'Abraham, c'est le solage de notre amitié comme chrétien, comme juif, comme musulman. Et que peut-être il y a moyen de construire sur le même solage une foi pour aujourd'hui, un témoignage de la foi d'Abraham qui transporte les montagnes et qui déménage.
Donc, d'essayer aussi de comprendre l'autre,
oui,
mais sur la même fondation.
Oui, oui. Et puis, bon, à travers cette fondation qui est très dépouillée, très sobre, un édifice pas très grand, c'est tout petit, ça contient 150 places assises. Donc, il y a un rappel des différentes dénominations chrétiennes dont je parlais tout à l'heure, puisque dans notre région, il y a eu à la fois des protestants avec des clochers très sobres, très, très courts, parlant du dépouillement, des flèches catholiques très élevées, et aussi, même si on n'a pas eu de coupole byzantine, il y a eu des familles ukrainiennes. Donc, on a mis en rappel de leur foi la coupole byzantine.
Et vous parliez d'ermitage, donc que des gens peuvent se rendre sur place, aller s'y recueillir, passer quelques jours et être à l'écoute de l'autre.
Oui, tout à fait.
Beau projet. Beau projet aussi que cette composition qui vous fut commandée pour le Congrès eucharistique de 2008, composition qui a pour titre « Don de Dieu » dont on écoute un bref extrait.
Oui.
La vie du monde.
l'Ensemble de musique sacrée de Québec, Don de Dieu, paroles de Robert Lebel, qui est avec nous aujourd'hui, musique de Mario Jacques, une chanson formidable qui a fait presque le tour du monde.
Oui, j'ai trouvé ça très beau, très beau. C'est une complicité d'esprit. En fait, lorsqu'on m'a invité à écrire un texte, je savais pas que ce serait le texte définitif. On m'a dit, on a plusieurs textes. On a demandé à quelques personnes. Voilà. Et puis, j'ai apporté ce texte-là. C'est celui qui a été gardé. Avec vraiment beaucoup de joie, j'ai reçu cette réponse-là. C'est magnifique de pouvoir penser que ma propre méditation au fil des années sur l'Eucharistie, parce que comme prêtre, je célèbre l'Eucharistie, et je suis en mesure de savoir ce que ça représente, pas en plénitude, mais parce que j'accomplis ces gestes de l'Eucharistie, parce que je tâche aussi que cette Eucharistie-là déborde dans la vie.
Et un chant que l'on chante encore beaucoup durant mmh. la communion, dans le cadre des célébrations eucharistiques. Une commande, il y en a eu plusieurs autres. Vous avez, entre autres, composé le chant thème des Journées mondiales de la jeunesse de Toronto, inspiré par le message de Jean-Paul II, qui était Lumière du monde.
Absolument.
Vous avez aussi, je crois, composé pour le mouvement des Cursillos francophones du Canada, et bien d'autres moments où votre créativité s'est laissée aller. C'est formidable, ça.
Ouais, c'est merveilleux. Ben, c'est parce que les gens me confient aussi des pistes de réflexion. Je pars pas de rien. Ils me donnent leur propre texte de base, les parcours qu'ils veulent mettre en valeur, puis ça m'inspire beaucoup.
Je m'en voudrais, avant de terminer cette émission, si on ne faisait pas entendre un chansonnier français qui, pour vous, a eu vraiment beaucoup d'importance dans votre jeunesse.
Effectivement, oui. Il s'agit de Jean Ferrat. Jean Ferrat, que j'ai découvert à l'âge de 17 ou 18 ans, par là, et que je chantais dans les boîtes à chansons. J'ai eu plaisir à chanter Jean Ferrat pour différentes raisons. Un, parce qu'on a le même registre à peu près de voix, la même couleur de voix, et aussi parce que je me trouvais bien dans ses textes, comme sa manière de dire les choses, sa poésie, je m'y retrouvais. Alors, sans copier, j'ai facilement mis cet habit-là de ses chansons et je les ai chantées volontiers. Et ça a marqué vraiment ma couleur, ma façon d'écrire.
De la chanson très engagée.
Oui.
Je vous ai trouvé une chanson, et j'en suis relativement fier, que vous ne connaissiez pas.
C'est vrai.
C'est parmi ces dernières. Oui. Vous pourrez remarquer qu'on fait souvent référence, il fait souvent référence à la France, mais évidemment, c'est un Français. Et donc, ses références étaient françaises. Mais c'est un beau message. La chanson a pour titre « La paix sur terre ». Dans le fond, c'est un appel à jeter les armes, un appel à être plus solidaire, comme vous le disiez, à faire place un peu plus et toujours davantage à l'amour.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus.
Ça fait toujours du bien d'entendre Jean Ferrat.
Oui, vraiment.
De toutes les chansons de Ferrat, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a marqué ou qui vous a touché?
Je dirais que la chanson « Pourtant que la montagne est belle ».
Pourtant.
Ça vous dit quelque chose?
Bien sûr, « Que la montagne est belle ».
Oui, ça c'est une chanson qui m'a toujours inspiré, que j'ai aimé reprendre beaucoup, beaucoup. Et « Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ». Ça c'est une chanson aussi, c'est un tube de Jean Ferrat, mais aussi que j'ai encore chanté tout à fait récemment.
Alors vous deviez être très sensible à Prévert.
Prévert aussi. Oui, avec ses poèmes, parfois un peu bizarroïdes, mais quand même,
oui.
Inspirants à leur manière.
Ou Aragon.
Aragon.
Robert Lebel, vos projets, avant que nous terminions cette émission, j'imagine que vous en avez plein la tête et plein les cordes de votre guitare.
En fait, j'aurais aimé beaucoup, en fait, c'est dans mes projets. D'abord, j'ai un autre album en préparation pour les mois qui s'en viennent. Et aussi un carnet, un recueil qui va paraître très, très bientôt de nouvelles séries de chansons qui n'avaient pas été publiées en recueil. Et puis, j'ai un rêve aussi. Puis c'est à la fois une demande de bien des gens de travailler sur un album de Noël. Alors ça aussi, ça fait partie de mes rêves. Et puis enfin, au versant la Noël, à notre centre, je rêve beaucoup de trouver des collaborations nouvelles, hein, des animateurs qui aient la disponibilité et l'ouverture de cœur pour accomplir cette mission-là, parce que elle n'est pas simple, ouvert à toute personne, de différentes dénominations. Alors ça, c'est comme un grand défi d'accueil, d'écoute, de présence de sens profond de ce qu'est l'Évangile qu'on peut annoncer aujourd'hui. Jésus qui appelle tout le monde, les païens compris, à un chemin de bonheur.
Et ça, vous y croyez profondément,
oui.
C'est votre mission de vie,
oui,
c'est votre raison d'être.
Ça fait partie de mes cordes.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Robert Lebel écrira, à l'instar de Gilles Vigneault, une messe?
J'aimerais bien en écrire. Il y a messe du soir qui est sans prétention, mais quand même qui a été reprise beaucoup dans les communautés.
Dont on a entendu plusieurs extraits au cours des deux dernières semaines.
Oui, oui. Et mais j'ai projet d'en faire une autre. Il y a déjà des morceaux qui sont créés, qui sont en attente de son tout, de leur tout. Oui.
Alors, au nom de tous les auditeurs et auditrices, un grand merci d'abord de votre présence à ce micro, mais aussi pour toutes ces chansons qui nous accompagnent et qui parfois nous trottent dans la tête beaucoup plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer.
Ah oui. Mais écoutez, d'abord, c'est moi qui devrais vous remercier de cette invitation-là, Armand, parce que c'est un privilège d'être invité ici. Et de cette marque de confiance et aussi de la beauté de vos choix musicaux et des questions que vous avez apportées qui ont fait de cette rencontre une belle rencontre.
Ce fut un grand plaisir et on vous souhaite tout le succès de mettre à profit le talent et j'allais dire ce don de Dieu. J'ai lu une phrase et je pense que je vais terminer avec cela où on dit de Robert Lebel qu'il s'est fait l'instrument de Dieu pour raviver la flamme de la foi qui nous aide tous à vivre dans notre quotidien et à abreuver notre âme qui a toujours soif de l'amour de Dieu. Merci Robert Lebel.
Merci à vous.
C'était l'émission Au gré du temps. Armand Dubois au micro. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires que nous transmettrons probablement à Robert. Cette émission a été réalisée sous la supervision de Nikolaï Djouchkine. Passez une excellente semaine, qu'elle soit remplie d'amour, de soleil et de présence. Et revenez-nous la semaine prochaine. Au plaisir. Au revoir.